Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 25 novembre. 25 novembre, à quelques jours de l'action de grâce américaine. On va parler de ça aujourd'hui au balado. On va parler, bien évidemment, on dit toujours, l'action de grâce, c'est un peu une date qui est charnière pour, quand on regarde le classement, quelles équipes vont être dans la course aux séries éliminatoires en fin de saison et lesquelles ont déjà pris trop de retard. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui pour cet épisode sur la route. Je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Si moi, je suis du côté de Montréal, mes deux collègues aujourd'hui, Guillaume Lepage, Jean-François Chaumont, eux sont du côté du premier, GF de New York et Guillaume à Calgary. Salut les gars.
Salut Nick.
Ça va bien?
Ça va très bien. Écoute, de retour en Alberta.
Oui.
J'ai eu des frissons quand j'ai vu le nom d'Edmonton sur la petite map dans l'avion. Donc, très excité.
Ça a pas été long,
mais
déjà.
Non, mais il fallait cocher ça sur la liste. On a parlé d'Edmonton dans le balado. Mais honnêtement, c'est ma deuxième fois à Calgary, mais là, je suis première fois un peu plus au centre-ville. C'est quand même, il y a un certain charme à cette ville-là. Là. Il y a eu une petite tempête de neige hier. Donc là, les trottoirs sont recouverts. Les petites lumières de Noël commencent à sortir. Donc, on est un peu dans l'ambiance des fêtes. Là.
Et pour GF, bien évidemment, New York et non pas Newark, très important.
Si on veut faire
du chemin
New
sur
York,
les villes
fois-ci.
Qui sont pas... Sont pas vos favorites, les gars. Vous êtes sur la route. Bon, Guillaume, toi, c'est pour le défi des meilleurs espoirs LCH, NTDP, là, le programme américain qui se déroule ce soir, le premier match, demain, le deuxième match. Donc, tu vas suivre. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de Gavin McKenna. JF, toi, tu étais faire ta cueillette d'informations. Tu es allé du côté des Islanders. Tu étais parlé avec Mathieu Darche. Hier, tu étais du côté du Madison Square Garden pour le match des Rangers. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission. On va aussi parler de ce qui se passe chez les Canadiens. Mais avant de commencer, ben, je vous invite, chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute qui peuvent exister à peu près. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et si vous voulez nous regarder, ben on est sur YouTube. Faites encore une fois la même recherche que je viens de vous dire. Sinon, allez sur la page de la NHL, la section podcast. Vous allez trouver la tasse de café, les gars. On y va, on parle pas plus de temps. On va parler de ce qui se passe. Vous êtes loin, là, mais on va parler de ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal. Nouveaux joueurs qui s'ajoutent. Ça, c'est une belle nouvelle pour les gens qui nous écoutent en Europe, en France. Alexandre Texier qui s'amène avec le tricolore. Bon, avait eu son contrat résilié là, par les Blues, avait été soumis au balotage. Tout ça fonctionnait pas avec les Blues. Pour Texier, c'est un joueur Texier quand même qui cherche depuis quelques années dans la Ligue nationale de hockey. Il a eu des défis autant personnels que sur la glace. Mais vous voyez ça comment, son acquisition là, par le tricolore sur un contrat... Quoi, c'est un an, un million, là, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu. Là.
Ben, je pense, premièrement, c'est qu'il y a très, très peu de risques. C'est un pari. Puis c'est un pari que choisit Kent Hughes et Jeff Gorton. Contrat d'1 million pour une seule saison. Si jamais ça s'avère un échec, bien, il peut toujours retourner dans la Ligue américaine et son salaire disparaît de la masse salariale chez le CH. Écoute, moi, j'étais du côté du Madison Square Garden hier matin. Les Blues jouaient contre les Rangers de New York. Puis j'ai parlé à plusieurs anciens coéquipiers d'Alexandre Texier, Robert Thomas, Jordan Kyrou, Mathieu Joseph. Ils ont tous dit le mot « super talentueux » pour décrire Texier. Ça revenait constamment dans les discussions. C'est un gars avec des mains rapides, une vision du jeu, des habiletés naturelles bien au-dessus de la moyenne. Robert Thomas disait même que probablement le coéquipier le plus talentueux en termes de qualité, d'habileté, avec talent brut avec qui il a eu la chance de jouer. Mais après ça, le revers de la médaille, c'était toujours il n'y avait pas de bon mariage avec les Blues. Il ne cadrait pas dans le système des Blues. C'était difficile pour lui de trouver son rôle. Jim Montgomery a été quand même direct quand je lui ai posé la question au sujet d'Alexandre Texier en disant « Oui, il a du talent. Il a le talent pour jouer avec de bons joueurs, mais à Saint-Louis, ça ne fonctionnait pas. Le gâteau ne levait pas. » Puis ce que j'ai retenu surtout, c'est du talent pour jouer avec de bons joueurs. Donc, si tu veux le placer dans un rôle de profondeur, un ailier d'un troisième ou d'un quatrième trio, probablement que Texier se perd plus rapidement. C'est pas à cette chaise-là, pour reprendre le mot de Martin Saint-Louis, qu'il peut s'épanouir, se mettre en valeur. Mais écoute, les Canadiens ont perdu en début de saison Samuel Blais. On a souvent dit qu'il commençait à y avoir un manque au niveau de la profondeur, mais l'ajout de Texier vient te donner un petit peu plus de profondeur.
Oui, puis en plus, il a dit qu'il voulait être ici. Là. Il y avait d'autres offres sur la table, puis il a accepté d'être à Montréal. Puis qu'au moins, il arrive motivé, mais vous voyez
Nick, comment... Nick, tu deviens émotif aussi quand ouais, tu parles non, de Texier.
Oui, non, j'ai ta voix. Un chat et...
Ça, je sais que tu aimes parler à nos cousins de la France qui écoutent le balado, mais je pensais pas que tu étais pour pleurer aussi rapidement. Là, on est rendu quoi, la cinquième minute? Nick a déjà pleuré pour
l'exemple. C'est drôle parce que ceux qui écoutent sur YouTube voient que tu niaises, mais tu sais, ceux qui sont juste à l'audio se demandent si j'ai pas la grosse lame qui tombe. Ben non, j'ai le chat dans la gorge et probablement le reste de l'animalerie aussi. Aujourd'hui, ben c'est le changement de saison. Je suis sorti l'autre soir pendant l'orage et ça m'a tombé dans le dos. Pour
étais-tu citer... habillé?
Mais non, ben on est dans la période de l'année où tu sors en short, tu te rends compte que c'était une bonne idée. Là, fait que on a une petite grippe ce matin. Ce matin, cet après-midi, on est l'après-midi, à vrai dire. Bon, je dis, Texier arrive motivé à Montréal, mais vous le voyez à être utilisé où? Comme Martin Saint-Louis disait hier, lui-même n'a pas l'air certain de comment Texier va s'intégrer à cette équipe-là.
Ben, tu sais, pour reprendre ce que Jeff vient de dire, je pense qu'il faudrait le placer dans un rôle plus offensif. Il y a quand même... Tu sais, l'ouverture à la droite de Nick Suzuki sur le premier trio, T'sais, en ce moment, c'est Zach Bolduc qui est là depuis deux matchs. J'ai trouvé qu'au dernier match, il commençait à quand même y avoir une certaine chimie entre les trois. C'est une possibilité. Tu mets Texier là, Bolduc vient de donner plus de profondeur. Bolduc est plus un joueur qui peut jouer un style physique sur un troisième trio, peut amener de l'énergie. Il y a cette facette-là, son jeu, qui est peut-être moins utilisé sur un premier trio. Donc, ça donne des options... Dans un contexte où on avait trois joueurs de la Ligue américaine qui étaient dans la formation au dernier match, je dis pas que Jacky Davidson ou Joshua Roy ou peu importe qui est là fait pas le travail, mais en Texier, tu vas chercher un gars qui a de l'expérience dans la Ligue nationale, qui a des quand même, c'est ça, en tant que coéquipiers qui ont joué avec lui, qui a les outils pour jouer à ce niveau-là. Donc, ça donne une carte de plus à Martin Saint-Louis dans un contexte pas facile. Puis là, on le sait, avec le mois de décembre qui arrive, le nombre de matchs que le Canadien va disputer en très peu de jours, ben c'est important d'avoir ça parce que là, tu commences à creuser un peu loin là, chez le Rocket de Laval pour tes rappels et tout ça. Donc, je trouve que c'est un beau pari. Je ne suis pas prêt à dire qu'on va lui donner une occasion sur le premier trio là, dès son premier match avec le Canadien, mais...
Pas supposé, là. Dans un monde... Ça serait...
Ouais, mais c'est ça. Mais dans un monde idéal, je pense qu'il faut que tu le mettes dans... Tu sais, Martin Saint-Louis aime quand même placer les joueurs dans des positions où ils peuvent connaître du succès, puis peut-être sur un troisième, quatrième trio, Texier peut-être pas dans la bonne chaise, quoique... Il y a quand même des éléments intéressants. Un Josh Anderson qui joue très, très bien depuis quelques matchs, ça peut bien complémenter un joueur qui est un peu plus dans la finesse, dans le talent brut comme Texier sur un troisième trio. Donc, c'est une option de plus. J'aime beaucoup cette acquisition-là. Surtout, j'ai hâte de voir, on a parlé, Texier a eu quand même des problèmes familiaux et rentré en France il y a quelques années. T'sais, ça n'a pas été simple de se retrouver dans un marché francophone avec des joueurs québécois, ça, on ne sait jamais, là, mais ça peut aider un joueur à se sentir plus confortable puis à s'épanouir un peu plus sur la patinoire. Déjà hier, il soulignait que c'est le fun. Dans le vestiaire, il y a quand même plusieurs gars qui parlent sa langue. Donc, j'ai hâte de voir l'effet que ça peut avoir sur un taxi puis sur son jeu sur la patinoire.
C'était exactement le même constat qu'offrait Mathieu Joseph hier matin. Mathieu Joseph disait que pendant deux ans, il a été assis avec Alexandre Texier dans l'avion avec les Blues. Puis il dit oui, il parle bien anglais, mais il y avait quand même une certaine timidité, comme quoi s'il ne montrait pas sa réelle personnalité avec certains coéquipiers, petite barrière de la langue. Puis il disait que probablement que l'environnement montréalais pourrait l'aider à trouver un élan ou juste être heureux, être bien dans sa peau dans une ville francophone. Donc, ben, ça... Puis Jordan Carew aussi a dit la même chose. Il dit j'ai parfois le sentiment que c'était difficile de le percer. Oui, il parle anglais, là, mais c'est un Français qui parle anglais, donc avec un très gros accent. Puis c'est parfois moins évident pour lui.
Il va pouvoir ménager sur le radeau, puis il va se sentir comme Hein, il va pouvoir ménager sur le plateau, il va pouvoir se sentir comme à la maison. Donc,
Non, mais je note quand même que tu sais, Texier a joué avec Pierre-Luc Dubois, puis à l'époque, je me souviens, on avait un blog avec Alexandre Texier sur le site, puis il avait dit que Pierre-Luc Dubois avait eu de très bons mots pour la ville de Montréal à l'aube de son premier match dans la métropole. Mais je note aussi l'accent d'Alexandre Texier. Hier, j'écoutais ses entrevues, puis il y a quand même quelques tournures qui sonnent québécois un peu. Là,
ah ouais, hein, OK.
Ouais, vous écouterez. Je pense qu'à force de traîner avec les Québécois à travers la Ligue nationale, là, pense qu'il a déjà pris certaines petites tournures de phrases purement québécoises.
Puis, bon, dans son cas, c'est, j'ose dire, là, une des dernières chances dans la LNH. Il va vouloir aussi... Lui-même se met en forme, il va être de l'équipe française aux Olympiques, l'équipe française qui participe aux Jeux cette année, mais aussi aux Jeux qui vont suivre, qui vont se tenir en France. Ça, c'est dans la carrière. T'sais, Texier peut être un rouage important de cette équipe-là, donc il y a énormément à gagner. Sinon, ben, t'sais, ça va être l'Europe pour lui, là, soyons francs. Là, quand il était retourné en France, là, il avait été placé sur le programme d'aide de la Ligue nationale, il allait jouer un an avec Zurich, avec les Lions, il a fait 35 points, 46 matchs. Si ça ne clique pas avec les Canadiens, ça se peut que justement ce soit un retour en la Suisse ou peu importe. Là. Lui, il est de Grenoble en plus, là, fait que t'es pas, t'es pas très loin de. Tu te rapproches en plus beaucoup de la maison. Donc, c'est un pari, comme vous dites, c'est un pari qui est intéressant. Mauvais signe pour Joshua Roy, par contre, de voir que tu vas chercher un joueur comme ça, puis toi, tu es retourné dans les mineurs, alors qu'on disait, on commençait à dire que le temps commençait à tarder pour Roy.
Ben, tu n'auras pas non plus 25 chances. C'est pas que Joshua Roy a complètement raté ou bousillé sa chance, mais tu dois apporter un ingrédient fort. Puis Roy, tu sais, on parlait de Texier qui... parvenait pas à trouver son rôle avec les Blues. C'est un petit peu une histoire semblable avec Joshua Roy. C'est un gars qui, foncièrement, est talentueux, devrait probablement jouer...
Il y a beaucoup de similarités avec Texier, là, sous certains
angles. Oui, il devrait jouer à l'aile d'un des deux premiers trios, mais il n'y a pas de place pour lui. Si tu l'utilises comme ailier d'un troisième, d'un quatrième trio, ça peut devenir plus difficile. Puis, tu sais, si on parle de Joshua Roy, mais ça te permet de faire le parallèle avec Florian Jacquet. Jacquet, on ne peut pas dire mission accomplie encore, c'est seulement un match. Mais ce premier match-là contre les Maple Leafs de Toronto, si tu veux amener une épice à la recette, bien Florian, il l'a amené l'épice. Là. C'était piquant, c'était fatigant, il a frappé, il s'est battu. Je ne sais pas qu'on va prôner la violence ou quoi que ce soit, mais ça a amené une énergie aussi. Guillaume, tu étais au match sur la passerelle de presse. Moi, je le regardais du côté de New York dans ma chambre d'hôtel à Flushing Meadows. Puis, quand ils ont montré la reprise, tous les gars ont été lui serrer la main au banc des punitions après son combat contre Dakota Mermis. Donc, tu sentais qu'il avait amené une énergie. Puis, les Canadiens en avaient besoin à ce moment-là. Mm-hmm. Ils étaient dans un creux de vague. L'arrivée de Florian a contribué à relancer un petit peu cette équipe-là. Mais attendons avant de dire qu'ils sont partis pour la gloire aussi.
Oui, puis dans le cas de Jacquet, tu peux l'utiliser partout. C'est ça qui est le gros avantage versus Texier ou versus Roy. Oui, c'est
centre lié. Tu n'as
pas de problème à le mettre sur le quatrième trio puis à lui donner peut-être moins de temps de jeu. C'est pas là qui. Pour son développement, oui, ce serait idéal peut-être un 15 minutes par match, mais pour ce qu'il peut faire, 10 minutes, ça va être en masse. Là. Donc, c'est
ouais, j'ai trouvé qu'avec Josh Anderson et Jake Evans, là, c'était une recette assez parfaite pour lui parce que ce sont deux gars qui jouent des styles assez directs. C'est ça, on lance la rondelle dans le fond de la zone, on va la chercher avec de l'échec avant soutenu. Fait que pour lui, tu sais, c'était rien de sorcier. Là. Il a pu jouer son match, pu frapper, il a pu s'imposer, puis tu sais, c'est... En le mettant sur un troisième trio, on lui demande pas la lune, on lui demande pas qu'il produise puis qu'il se mette à marquer des buts. Puis finalement, ben, il a servi une superbe passe à Josh Anderson sur son but. Fait que Non, c'est quand même une bonne première impression. Il continue sur la lancée qui est de son camp d'entraînement. Mais pour le reste, voyons voir. C'est sûr que les gros tests... Oh,
il y avait l'adrénaline d'un premier
c'est
match.
Ça,
aussi,
c'est
là.
Ça, exactement. Là. Puis ça, ouais, ça a réveillé. Ça.
Premier match avec son frère et tout ça.
C'est
avait,
ça, ça a réveillé
Il y avait beaucoup
Harbour,
de choses autour de... Oui, Harbour, qui depuis les deux matchs précédents, je pense qu'il n'y avait aucune mise en échec. Puis là, finalement, dans ce match-là, ben, a pincé, je pense que c'était Samuel Blais justement dans les premières ouais. minutes de la rencontre. Donc, on a senti que ça l'a peut-être allumé aussi dans ce match-là et il a quand même obtenu 15 minutes de temps de jeu. C'est quand même plus que ce qu'il avait dans les matchs précédents. Connu un match correct défensivement. Là. Ce ne serait jamais un Picasso de son côté dans sa propre zone, mais si c'est de ça dont il avait besoin pour peut-être avoir un second souffle à un moment où il commençait à être pas mal essoufflé, là, je pense que ça a eu cet effet-là aussi sur le groupe.
Ouais, pas de doute. Là, les Canadiens, bon, on s'en va sur la route pour les prochains matchs. Demain, ou aujourd'hui, là, selon quand vous nous écoutez. Le mercredi soir, on est en Utah pour affronter le Mammouth. Et par la suite, deux matchs qui ne sont pas difficiles, pas faciles, plutôt contre les Golden Knights vendredi et contre l'Avalanche du Colorado. Deux matchs en matinée, là, d'ailleurs. Il va falloir ajuster votre enregistreuse, peu importe, là, ajuster votre horaire. Mais contre l'Avalanche, donc le match contre le Mammouth demain, je pense que c'est vraiment important pour construire sur ce qu'on a fait contre Toronto. Cette victoire-là qu'on a été... On était dominant là, dans ce match-là. Là, le pointage, je pense, ne reflète pas. Ça aurait pu être pas mal plus grand écart que ça. Bon, le Canadien a confirmé que Jacob Dobesch va être devant le filet. Est-ce que ça vous surprend que tout de suite on fait appel à nouveau à Dobesch ou on en est rendu là?
Non, là, je pense que c'est la distribution des cadeaux. C'est assez. Tu y vas avec le gardien qui gagne.
C'est l'action de grâce, hein, commande.
Oh, oui, ouais. Tu peux être reconnaissant, mais justement, il faut que tu remercies Jacob Dobesch d'avoir offert une bonne prestation contre les Maple Leafs. Il ne faut pas oublier la dernière conférence de Martin Saint-Louis avant le match contre les Maple Leafs. C'était « on va regarder toutes les options ». Et parmi toutes les options, il y avait peut-être de penser à Kapo Kakkonen. C'est Renaud Lavoie aussi qui en parlait pendant la diffusion du match. Je crois pas qu'on aurait osé lancer Jacob Fowler dans la fosse au Lyon à 20 ans, tout jeune. Même s'il connaît un bon départ avec le Rocket, le Fowler a besoin de minutes dans la Ligue américaine, a besoin de construire sa confiance. Puis le CH défensivement, c'était tout croche aussi. Donc Dobesch a bien joué. Défensivement, la structure était plus solide. Oui, il mérite un autre départ. Là, je pense que tu vas simplement continuer de miser sur le gardien qui est hot, si on me permet l'expression, là, celui qui te donne les meilleures chances de gagner. Mais il faut aussi rester prudent. Les Maple Leafs, c'était pas l'armée rouge non plus au Centre Bell. Il manquait Austin Matthews, il manquait Matthew Nice.
Ça ressemblait plus.
Manquait Chris Tanev.
Ça ressemblait plus aux équipes qui venaient jouer contre l'Association mondiale, les équipes russes là, dans le temps. Là. C'était ton club C en...
Non, c'est ça. Mais c'était des niveaux parfaits pour rebâtir une petite confiance.
C'est ça. Mais j'ai hâte de voir si on va être capable de confirmer cette sortie-là
exact.
Contre les Maple Leafs, de poursuivre contre l'Utah, parce que oui, c'était plus solide défensivement et tout ça, là, mais de l'autre côté, là, j'en parlais avec des collègues, puis les mots atroces et épouvantables sont à peu près ce qui revient le plus souvent là, quand on parle des Maple Leafs. Je pense que c'est
des engagements
qui se cherche. Exact, qui cherche. Puis les joueurs en ce moment, là, William Nylander, samedi, on l'a vu quelques fois, mais ça n'avait pas l'air du gars qui avait le plus envie de gagner ce match-là puis qui accordait beaucoup d'importance à la victoire. Là. On dirait que du côté des Maple Leafs, il y a de quoi qui cloche. Puis on va le donner aux Canadiens. Ça a été beaucoup mieux que dans les matchs précédents. Mais voyons voir cette semaine si on est capable de confirmer ça.
Je reviens sur Fowler. Là. Les gens qui disent c'est le temps de rappeler Fowler.
Non, non, non.
Touchez pas à ça. Laissez-le en bas. Regardez ce que Jesper Wallstedt fait à sa première saison complète dans la Ligue nationale cette année. Regardez ce que Yaroslav Askarov, ces deux gardiens qui sont restés très longtemps dans la Ligue américaine, mais quand ils ont fait le saut, ils étaient prêts. On le voit cette année, Wallstead qui est en train, écoute, là, le Wild, soudainement, a peut-être le meilleur duo de gardien de but de la Ligue nationale de hockey avec ce que fait ce jeune-là. Fowler, là, pas cette année, pas l'an prochain non plus. Mettez-y même pas ça dans la tête. Là. Ça vaut pas la peine. Minimum 2 ans dans la Ligue américaine de hockey. Tu sais, tu disais GF, mais c'est un peu comme un lanceur là, au baseball. Là. Ça, c'est tellement un poste qui est demandant maintenant. Faut que tu développe une endurance pour éviter les blessures. C'est pas juste des réflexes, c'est pas juste devenir un gamer, être un pro. C'est aussi physiquement qu'il faut que tu développes cette endurance-là pour être un gardien de à long terme dans la Ligue nationale de hockey. Touchez pas à Fowler pour l'instant. Les gars, je vous amène à New York. Toi, tu y es déjà, GF, mais on va parler de ça. Tu es allé rencontrer Mathieu Darche cette semaine. Tu l'as rencontré quand déjà? C'est...
Samedi, hein, c'est du ça, côté okay. du UBS Arena. Écoute, les Islanders, ça représente une bonne destination pour nous avec Mathieu Darche, Patrick Roy, Jonathan Drouin, Emil Heinemann, Jean-Gabriel Pageau qui s'est blessé, Alexander Romanov qui s'est blessé, Anthony Duclair. Donc, disons qu'il y a la francophonie est bien représentée dans le vestiaire des Islanders.
Pour une fois, qu'on peut aller sur la route, puis on peut parler français un peu, on le prend. Là,
exact.
À tous les niveaux, comme ça, il n'y a pas d'autre endroit que c'est comme ça, à part Montréal?
Non, à part Montréal, là, non. Même le PR Kimber me disait à la blague, je pense pas juste à la blague, je commence à prendre des cours de français parce que je perds beaucoup de bouts de discussion entre Mathieu Darche, Patrick Roy, Benoît Desrosiers aussi qui est là comme adjoint derrière le banc. Donc oui, l'objectif, c'était de rencontrer Mathieu Darche qui vit le rôle de DG pour une première fois. Ça fait maintenant 6 mois qu'il a été embauché par les Islanders de New York, 7e DG de l'histoire des Islanders. En partant, disons qu'il y a un choc entre Lou Lamoriello et Mathieu Darche. Patrick Roy, cette semaine, répondait à une question d'un collègue de New York au sujet de Romanov qui voulait confirmer qu'on parlait bel et bien d'une blessure à une épaule, opération pour l'épaule droite. Puis Roy a simplement dit, là, oui, on a le droit de le dire, vous avez vu les images comme moi, on parle bel et bien de l'épaule droite. C'est fini l'ère Lou Lamoriello où on gardait plusieurs secrets. Donc Darche, rapidement, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a remercié pendant l'entrevue environ 5 fois Julien Brisebois. Dit qu'il a appris à la bonne école, a eu la chance d'avoir de grandes responsabilités avec le Lightning. Il avait déjà cogné à la porte aussi pour des entrevues. On le sait, avec les Canadiens de Montréal, avec les Penguins de Pittsburgh, avec les Blackhawks de Chicago, avec les Canucks de Vancouver. À Pittsburgh, il est passé à quelques centimètres près d'être engagé par les Pingouins. Finalement, c'est Kyle Dubas qui a obtenu le poste. Mais Darche a patienté, fini par atterrir du côté de Long Island avec une équipe où on se posait la question, est-ce qu'ils vont se lancer dans une reconstruction? Non. Avant d'entrer en poste, ils ont eu comme cadeau de gagner la loterie Matthew Schaefer. Darche a choisi de miser et de continuer avec Patrick Roy. Je crois que c'est une bonne décision. Et il a échangé également Noah Dobson. Ça, il en parlait, il m'en a parlé en long et en large. Mais dans la transaction Noah Dobson, là, il faut comprendre que Darche ne voulait pas échanger Dobson. Mais au niveau du contrat, on ne s'entendait pas pour les mêmes chiffres. Puis il disait, à partir du moment que tu vois que ça devient difficile dans les négociations, tu ne veux pas perdre un joueur aussi important sans rien obtenir en retour. Il fallait le monnayer le plus rapidement possible. Mais la difficulté, c'est que Dobson avait quand même une liste d'équipes où il était prêt à obtenir, à dire oui à une prolongation de contrat. Montréal en faisait partie. Oui, il y a eu les 2 choix de premier tour, 16-17, là, Eklund et Kachan Etchison. Mais Darche a poussé fort pour acquérir Emil Heinemann. Puis pour l'instant, du côté de Long Island, Heinemann donne de précieux services. C'est un ailier qui joue soit premier ou deuxième trio avec Bo Horvat principalement. A déjà marqué 9 buts, donc Heinemann donne de précieux, précieux services aux Islanders de New York.
On ne saura pas à quel point Heinemann aurait pu être bon l'année dernière si ce n'était pas fait frapper par une auto. Là.
Ben, il m'en parlait en c'est entrevue ça, comme quoi ça fait dérailler un petit peu beaucoup sa saison. C'est 10 buts, c'était ses 41 premiers matchs. Puis quand il est revenu au jeu, c'est aucun but en 20 ou 21 matchs de mémoire pour Heinemann. Donc, ça... Oui, c'est ce fameux accident où...
À Utah, justement.
Lui, là, comme où, piéton où... à Salt Lake City, ouais, en traversant les boulevards à 6 voies. Et il s'est fait frapper par une voiture. Donc, ça a été malheureux pour Heinemann. Peut-être qu'on a mal évalué. Pas qu'on a mal évalué. Pour obtenir un bon joueur, tu dois payer.
Ouais.
Puis Noah Dobson, c'est un défenseur qui joue en ce moment au sein de la première paire avec Michael Matheson. Donc, lui aussi, là, le CH est très heureux de son inquisition. Mais Heinemann, ouais,
dans les derniers matchs, Dobson,
il a été très bon aussi
à être à sa place. Là. Il a trouvé son rôle, puis il commence à s'affirmer un peu plus offensivement. J'ai beaucoup aimé ces derniers matchs.
Puis Heinemann, sans trop faire de bruit, on commence à encercler de plus en plus son nom pour les Jeux olympiques avec la Suède. J'ai croisé Alexander Steen, qui est l'adjoint à Doug Armstrong avec les Blues, mais également un adjoint ou un conseiller pour l'équipe de la Suède. Donc, c'est possible de voir Emil Heinemann participer aux Jeux olympiques.
Tu sais, tu disais, on a peut-être mal évalué Heinemann. Je pense surtout que les Islanders ont vraiment bien évalué. C'est surtout ça. Là, il y a eu... Tu sais, tu as des recruteurs professionnels. Mm-hmm. C'est là que c'est important. Puis, je ne sais juste pas si c'est ceux des Islanders ou du Lightning qui ont fait le gros du travail sur cette évaluation-là parce que Darche n'était pas là encore. Mais Heinemann, tu regardes ce qu'il fait cette année... 15 points, c'est un marqueur de 20-25 buts, assurément, dans ce qu'il va faire dans pas très long.
Oh oui.
Moi, je suis surpris parce que je m'attendais à ce qu'on procède à une reconstruction. Avec la transaction de Dobson, je m'attendais à ce que Mathieu Darche ait les coups des franges pour faire une reconstruction, ce qui n'aurait probablement pas été une bonne nouvelle pour Patrick Roy. Là, vous regardez comment on joue cette année. Il y a des joueurs, des beaux Horvat qui connaissent la saison... Une saison, je veux pas dire la saison de sa carrière parce que ça avait été du côté des Canucks, son année de contrat, mais il a 25 points en 23 matchs. T'as un Cal Palmieri qui, depuis qu'il a le droit de porter la barbe, est revenu à ses belles habitudes. Puis tu rajoutes, bon, on a Schaefer Drouin aussi pour qui, somme toute, ça va bien. Vous croyez, est-ce que vous y croyez aux Islanders là, quand vous regardez ce qu'on fait cette année? Est-ce que c'est réellement une équipe qui peut se battre à long terme pour une place en séries éliminatoires grâce à cette nouvelle ambiance-là? Tu sais, tu parlais des petits secrets de Lou Lamoriello, mais je veux dire, même sur les réseaux sociaux, cette équipe-là a le droit de s'exprimer maintenant. C'était vraiment l'équipe la plus fade là, sur les réseaux sociaux. Un communiqué, c'est tout. Puis c'était... On communiquait avec les gens, justement, là, comme en 92. Là. T'as-tu senti cette nouvelle vibe-là, justement, GF, chez les Islanders?
Ben oui, je crois que c'est possible, mais en partant, tu sais, t'as dit le mot Patrick Roy. Je pense pas que Patrick Roy aurait été l'homme d'une reconstruction. Roy, c'est quelqu'un qui veut gagner. C'est quelqu'un qui va se battre pour gagner. Mais il disait, oui, il y a eu l'échange de Noah Dobson, mais il faut pas oublier qu'on a de bons vétérans et surtout de bons gardiens. Sorokin a une bonne saison. Rittich comme numéro 2 également. Puis dit l'autre facteur qui était impossible à prévoir, mais c'est celui de Matthew Schaefer. Matthew Schaefer vient déjà changer la dynamique de l'équipe, amène les Islanders à un autre niveau. Tu regardes simplement dans le marché new-yorkais, les Rangers, je ne suis pas convaincu qu'ils ont le talent pour atteindre les séries. Les Devils, il y a plusieurs blessés, dont Jack Hughes qui s'absentera pour plusieurs semaines. Les Islanders pourraient se faufiler. Moi, une participation aux séries pour cette équipe-là, je ne crois absolument pas que c'est loufoque. Ils ont des blessés quand même. Là. Pajot et Romanov à long terme. Mais il y a un potentiel, il y a un talent, puis il y a un désir de gagner. Roy disait également que la communication est extraordinaire avec Mathieu Darche. Darche est un DG qui est allumé. Il va travailler pour améliorer l'équipe à court, moyen et long terme. On verra. C'est le plan, par contre, c'est d'essayer d'entrer dans le bal des séries dès cette saison.
Moi, j'ai mes réserves par rapport à ça. Tu sais, on regarde la moyenne d'âge de cette équipe-là. C'est la 7e équipe la plus vieille de la Ligue nationale avec une moyenne de 28 points quelques. En ce moment, j'ai l'impression peut-être qu'on a une lune de miel. Là. Tu sais, Matthew Schaefer, gros début de saison, le renouveau, là, tout ce dont on vient parler avec Mathieu Darche et tout ça.
Tu peux rajouter l'Arena aussi, là, qui somme toute et fait quelques années. Ouais. Là, mais tu sais, quand je parlais dans tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort, cette concession-là des 2-3 décennies moribondes qu'on a connues dans les années 90-2000, 2010, même avec Brooklyn puis tout ça, c'est, je veux dire, ça, les gens là-bas, là, ils ont mangé leur pain noir longtemps, là, les partisans. Là.
Oui, ouais, mais tu sais, j'ai hâte de voir si ça va durer. Pour ma part, j'y crois pas vraiment parce que là, rendu au mois de février, après les Olympiques, est-ce qu'on va être capable de tenir le rythme jusque-là? Est-ce que Matthew Schaefer, première saison, là, ça va bien en ce moment, mais c'est sa première saison dans la Ligue nationale où il doit disputer 82 matchs. Est-ce qu'il va être aussi excellent sur le long terme? Je doute zéro de son talent. À un certain point dans sa carrière, il va être le gars le plus constant puis le plus efficace dans toutes les situations. Là. Je crois beaucoup en ce jeune-là, mais il faut mettre des astérisques quand même. En ce moment, tout va bien du côté des Islanders. Quand ça va se mettre à peut-être dérailler, est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on a les éléments, est-ce qu'on a la profondeur pour rester dans la course aux séries? Moi, j'en doute. On regarde la formation, il y a beaucoup de joueurs qui, je sais pas, me laissent indifférent un peu. Là. Il n'y a pas de grande vedette. Il y a pas, j'aime bien Bo Horvat et Matthew Barzal, là, mais je trouve que derrière ça, il y a beaucoup de vétérans, mais il n'y a pas beaucoup de punch. Donc, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Parlons-en en février-mars. Peut-être que les Islanders vont avoir piqué du nez. Surtout, on en parle, c'est le cas pour toutes les équipes, là, mais le calendrier condensé, ça peut rattraper quelques équipes avec moins de profondeur. Puis les Islanders, selon moi, font partie.
Tu parles de Schaefer, justement, qui pourrait connaître de la fatigue avec un calendrier complet, surtout qu'il n'a pas joué une année complète l'année dernière. Une autre raison pour laquelle il pourrait être un peu plus fatigué, c'est si Équipe Canada lui faisait signe pour les Jeux olympiques. Je pensais pas que c'est une conversation qu'on aurait cette année, mais Schaefer, de la façon qu'il a amorcé sa carrière dans la LNH, bon, c'est ajouté au radar d'Équipe Canada parce que là, on lui a demandé, là, semble-t-il, de s'intégrer au processus de dépistage. Bon, je pense qu'il y a 90 joueurs qui sont dans ce processus-là, là, donc c'est pas... ça veut rien dire... Mais quand vous regardez ça, est-ce que vous êtes, si vous êtes Doug Armstrong, si vous êtes Équipe Canada, vous lui faites une place dès cette année pour les Olympiques?
Mais il est dans les candidats sérieux. Ça, il y a pas de doute. Dans ma conversation avec Mathieu Darche me disait que pendant tout l'été, il est au téléphone avec l'agent de Matthew Schaefer pour lui dire « On va regarder toutes les possibilités possibles. » Sa plus grande crainte, c'était le fait que Matthew Schaefer avait joué 17 matchs, ma mémoire est bonne, la saison dernière, du côté des Reaps. Puis Darche voulait jouer de prudence en se disant, mais il n'a pas joué beaucoup de hockey. Il y a eu une blessure importante. Est-ce qu'on peut lui ouvrir les portes de la Ligue nationale immédiatement? Puis ça n'a pas été long qu'au camp d'entraînement, camp de développement, les premiers matchs préparatoires, il n'y avait plus de doute. Schaefer a le talent pour jouer en Ligue nationale. L'an dernier, là, on est quoi, le 25 novembre? À pareille date, Matthew Schaefer se poser des questions à savoir est-ce que je vais gagner un poste avec l'équipe Canada junior, les moins de 20 ans. Un an plus tard, c'est la même question, mais est-ce que je vais gagner un poste pour les Jeux olympiques à la ligne bleue? En fait, je lui en parlais après. Oui, vas-y Guillaume.
Juste ajouter le fait qu'à pareille date, l'an dernier, j'étais aussi au défi des espoirs de la Ligue canadienne, puis Matthew Schaefer était ici.
T'étais où, là?
En Ontario, je crois.
London,
puis London, puis Oshawa.
Vraiment, le gars, il est destination. C'est ça.
mais tu sais, Matthew Schaefer, à ce moment-là, on parlait beaucoup de Michael Misa comme premier choix au total. Puis dans ces deux matchs-là, Matthew Schaefer a époustouflé tout le monde. Il y a un but qui a marqué d'un bout à l'autre de la patinoire de toute beauté. Puis c'est à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, je pense que de un, Équipe Canada en aurait besoin. Puis de deux, ben c'est un candidat sérieux pour le premier choix au total. Puis après ça, il n'a pas joué tant que ça. Là. On était fin novembre. Il y a eu le camp de sélection d'Équipe Canada junior. Il a joué deux matchs au Mondial junior. Sa saison était terminée. Puis il a conservé son poste de premier au total pendant toute cette année-là. Donc, c'est quand même un cheminement fulgurant. Là. J'en ai glissé un mot dans mon texte ce matin, mais c'est quand même de se reculer d'un an, c'est quand même très, très impressionnant d'avoir tout le parcours que Schaefer a parcouru.
Ouais, puis même lui, il disait tantôt, après l'entraînement des Islanders, à leur centre d'entraînement, là, j'ai patienté longtemps parce que Schaefer restait sur la glace avec Callum Ritchie, Jonathan Drouin, là, typique les deux plus jeunes, Richie et Schaefer, faisaient des minutes de plus à s'amuser avec un vieux Jonathan Drouin. Mais Mathieu avait le sourire au visage en disant c'est un peu surréel ce qui se passe. C'est juste simplement de voir mon nom circuler pour les Jeux olympiques, c'est un immense honneur. Il dit il y a beaucoup de bons défenseurs au Canada. Là, c'était le classique. Il disait je veux pas y penser, mais entre vous et moi, il n'y a pas de doute qu'il y pense aux Jeux olympiques. Puis il disait si jamais je dois être choisi, mais peu importe le rôle qu'on voudra me confier, je vais écouter, je vais foncer, je vais y aller. Puis ce qui est intéressant aussi, Patrick Roy, je lui ai posé la question, si jamais tu reçois un appel de Doug Armstrong ou de Julien Brisebois ou de John Cooper, l'entraîneur-chef, qu'est-ce que tu leur réponds au sujet de Schaefer? Est-ce que c'est réaliste d'amener un gars de 18 ans avec une aussi bonne équipe que celle du Canada aux Olympiques? Puis Roy, sans hésiter, a dit, si Coop, John Cooper, me téléphone, il dit « Je pousse pour Mathieu Schaefer. » Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas juste parce qu'il est bon offensivement. Il dit qu'il est très, très, très bon défensivement. Avec les Islanders, il joue avec Ryan Pollock contre les meilleurs trios de l'équipe adverse. Il joue en désavantage numérique. Il joue en avantage numérique. 8 fois en 23 matchs cette saison, il a joué plus que 25 minutes. Et Roy disait « J'aimerais ça des fois lui en donner moins, mais il est tellement bon, tellement efficace, tellement intelligent. » qu'il n'a pas le choix de miser sur lui. Donc, si tu regardes du côté gauche pour Équipe Canada, c'est possible aussi que Schaefer devance un Travis Sanheim qui avait un poste l'an dernier pour la confrontation des quatre nations. Il y a Joshua Morrissey, probablement Thomas Harley qui avait quand même très bien joué, mais Harley est blessé en ce moment. Donc, il peut certainement y avoir une ouverture pour Mathieu Schaefer.
Ben, c'était ça ma question, je regarde un peu. Là. C'est que Sanheim t'amène... Plus de robustesse, une présence physique. C'est ça, parce que tu as des défenseurs qui ont du talent offensif, tu vas en avoir d'autres. Tu as parlé justement de Morrissey, Harley, à droite, bon, Kyle Makar, chez Théodore, qui est aussi un gaucher. Sanheim t'amène une constance, une robustesse que tu vas avoir besoin, surtout que c'est une patinoire de la Ligue nationale de hockey, non pas une patinoire internationale. C'est là que j'hésite un peu avec qui je sors dans l'équipe. C'est pas est-ce que...
Mais t'as le droit d'inviter 8 défenseurs.
Ouais, c'est ça. Ben là,
écoute, si jamais le malheur te frappe, tu perds un canon comme Kyle Makar, qui est ton cerveau en supériorité numérique.
C'est arrivé aux quatre nations.
Ouais, c'est Makar qui s'est blessé.
Puis on a...
Ouais, puis Makar, mais Makar
aussi s'est blessé. Puis on avait rentré Thomas Harley, qui est bon offensivement, mais c'est pas le même type de dynamisme sur patin qu'un Kyle Makar. Je pense qu'avec un Schaefer comme septième, comme police d'assurance, si t'as un blessé, Schaefer peut rentrer puis prendre la place, ce rôle-là de défenseur plus offensif, plus dynamique, excellent en relance et tout ça. Fait que je pense que ça coûte rien de l'amener, puis lui va prendre d'expérience, puis tu lui donnes peut-être un match ou deux, puis c'est bon pour les deux parties. Fait que moi, je pense que ça va être difficile. En tout cas, si ça se poursuit de même jusqu'à la fin du mois de décembre, là, ça va être très, très difficile d'ignorer Mathieu Schaefer sur la liste qui va être soumise.
Ça va peut-être être une question de blessure là aussi. Là. Ouais. S'il manque justement, là, Josh Morrissey se blesse, ben là, on a peut-être notre réponse à ce moment-là. Tu peux ouvrir la porte à un Schaefer comme huitième défenseur. Je sais pas. Je suis un peu en deux. J'ai hâte de voir. Je pense qu'il avait ralenti un petit peu aussi le Schaefer dans les deux, trois derniers matchs.
Non, absolument pas.
Non?
Ouais, mais pas de points, mais ça veut rien dire. Là. J'ai regardé les deux derniers matchs. Après la rencontre contre le Kraken, Roy disait qu'il venait de jouer son meilleur match de l'année. 27 minutes, il était partout. Il a obtenu un paquet de chances de marquer. Encore une fois, défensivement, tu sais, il a beau se lancer à l'attaque. C'est un moteur un peu à la Lane Hudson, peut-être encore plus rapide que Lane Hudson. Il revient toujours dans le jeu. Il a eu deux très bons matchs en fin de semaine contre le Kraken dimanche. Et samedi, c'était contre les Blues de Saint-Louis. Puis les deux fois, il a dépassé largement les 25 minutes de temps de jeu. Là.
Comme tu dis, là, je regardais. C'est... Ouais, il n'y a pas de points en 5 matchs, mais comme l'autre angle que tu amènes, c'est bon. Au moins, c'est... Ben, il est peut-être en train de se familiariser à ce que c'est être un défenseur fiable dans la Ligue nationale de hockey, mm-hmm. et pas seulement un défenseur offensif.
Les Islanders n'ont pas marqué beaucoup de buts aussi dernièrement. Non. Moi, j'ai eu le droit dimanche à un classique 0-0 après 65 minutes. Mais dans les chances de marquer, les jeux provoqués, il y en a plusieurs qui venaient du bâton de Matthew Schaefer.
Ah, ça va venir, ça va venir. Donc, vous deux, vous y faites de la place, là, si je comprends bien, là, si vous êtes team Équipe Canada.
Ben,
ouais.
Je pense qu'il pourrait demain aussi.
En date du 25 novembre.
Ouais, en date du 25, un mois avant Noël. Puis, quand tu parles à gauche, à droite, Guillaume le connaît aussi, là, c'est un bon petit gars. Je pense qu'il y a plusieurs vétérans qui seraient heureux de voir aussi sa bonne humeur, son entrain, son dynamisme. Donc, il pourrait être plus qu'une police d'assurance, il pourrait amener une énergie là, drôlement importante à l'équipe Canada.
Puis tu formes, je veux pas dire ton prochain capitaine là, parce qu'il en manque pas. Là, mais
il y en a d'autres, il y a Celebrini aussi, puis Bédard chez les attaquants qui vont peut-être tordre le bras de Doug Armstrong d'ici quelques semaines.
Ils sont très fatigués, on va avoir le temps d'en reparler. On en glisse des mots depuis tantôt, match des espoirs. Guillaume, là, parle-nous de ça, tu es du côté de Calgary. C'est Calgary et l'autre. Arrête demain, j'ai goût de Red Deer. Let Bridge. Donc, encore là, tu vas pouvoir aller faire du tourisme.
Non, je me sauve de ça.
Ah, tu te sauves avec ça.
Le premier match ce soir, mais hier, j'ai discuté, je pense, avec 12 espoirs différents. Donc, j'ai en masse. Ma récolte est pas mal faite. Et on s'attend quand même à une domination là, de l'équipe de la Ligue canadienne. 15 joueurs. Potentiellement repêché au premier tour selon la liste du bureau de dépistage de la Ligue nationale contre seulement un du côté du programme américain. Donc, ça devrait. L'année passée, le premier match s'était terminé 6-1. Là. Ce soir, pour le premier match de la série, on pourrait s'attendre à quelque chose de très, très similaire. Donc, regarder deux matchs comme ça, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas si payant pour notre job de journaliste.
Non, ouais, je comprends. Est-ce que, tu sais, on a parlé de Gavin McKenna, on va en reparler, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient normalement été dans l'NTDP qui n'y sont pas parce qu'avec la nouvelle réglementation de la NCAA et tout ça?
Il y a certains, je pense qu'il y a deux Américains du côté de la formation de la Ligue canadienne qui ont décidé de venir jouer de ce côté-ci de la frontière. Mais tu sais, on parle beaucoup de l'impact de cette réglementation-là sur les équipes de la Ligue canadienne. Mais de l'autre côté, là, le programme américain de développement qui a été l'exemple à suivre pendant les grosses années, là, 2019, et toutes ces, où on a produit comme 7 ou 8 choix de première ronde, ça semble être derrière le programme. Et tout le contexte avec la USHL, l'équipe du programme joue contre des équipes de la USHL qui perdent des joueurs au profit de la Ligue canadienne. Donc là, le niveau commence à baisser. Il y a des joueurs qui auraient le potentiel de jouer dans le programme américain. Décide de venir jouer dans la Ligue canadienne. Donc, c'est quand même intéressant comme dynamique cette année ici. L'autre chose, c'est que depuis hier, tu te promènes partout, tu parles aux joueurs, tu parles aux recruteurs qui sont ici. Puis le nom qui revient tout le temps, c'est celui de Gavin McKenna, qui aurait été la tête d'affiche de ce match-là, sans aucun doute, s'il avait joué dans la Ligue canadienne cette année. Mais a décidé d'aller dans la NCAA. Je dis ça en anglais, NCAA.
NCAA.
Universitaire américain.
Bon.
À Penn State. Donc, tu sais, c'est comme l'éléphant dans la pièce. Là. On parle beaucoup. Tu sais, il y a du talent de pointe ici. Là. Il y a beaucoup de gars qui vont être repêchés au premier tour en juin prochain. Mais
juste, hey,
le
juste,
gros nom n'est pas là. Tu sais.
Ouais, non, juste spécifier, il y a 5 Américains dans la formation de la LCH. Fait que c'est vraiment différent des autres années. Oui, le grand absent, comme tu dis, c'est Gavin McKenna. Puis McKenna aurait peut-être profité d'être là parce que présentement, dans le CIA, c'est un peu plus difficile qu'on le pensait. Là. Tu, comme tu dis, ça en parle beaucoup de McKenna. Soudainement, son titre de meilleur espoir disponible pour le repêchage, il y en a qui commencent un petit peu à douter.
Et tu sais, l'année passée, on n'aurait jamais cru ça possible. Là. On parle d'une saison de 129 points, donc 41 buts en 56 matchs, 38 points en série, mène son équipe au championnat, participe à la Coupe Memorial. Donc, c'était un gars qui était dans une très bonne position. Probablement que s'il était resté dans la Ligue de l'Ouest cette année, aurait déjà quelque chose comme pas loin de 50 points jusqu'à maintenant. Puis, il n'y a personne qui questionnerait son statut de premier choix total. Mais il a pris la décision d'aller jouer contre la compétition plus âgée. Ça se comprend parce que là, tu peux bien dominer à un niveau, mais est-ce que c'est une année perdue dans ton développement si tu fais 4 points par match? Il y a ça aussi qui se pose comme question. Mais de son côté, tu sais, il commence à avoir des questionnements parce qu'il produit à 1 point par match dans la NCAA, mais Tu regardes des gars qui sont passés par là. McLean Celebrini, à sa première année dans la NCAA, a dominé encore plus que ça. Il commence à avoir des comparaisons. On regarde son engagement sans la rondelle, parce que McKenna, avec la rondelle, il n'a pas de problème. Sans la rondelle, ben là, il y a des questions. Est-ce que c'est un gars qui est impliqué dans le jeu? Est-ce qu'il est fiable défensivement? Est-ce qu'il est capable de faire autre chose que d'amener de l'offensive? Donc, ce sont toutes des questions qui sont soulevées à son sujet. Puis, on a parlé ici à des joueurs de la Ligue de l'Ouest qui l'ont affronté, qui disent que ça va prendre du temps pour lui de s'adapter à la NCAA et tout ça. Son ancien entraîneur dit qu'il y a trop de talent, Willie Desjardins, il dit qu'il y a trop de talent pour ne pas réussir à s'en sortir. Peut-être qu'en deuxième moitié, il va exploser et va terminer la saison avec 50-60 points, puis on ne remettra pas son statut en question. Mais pour l'instant, c'est plus difficile. Puis il faut se rappeler, là, il y a des doutes aussi. Tu sais, les gens hier, on parlait avec d'autres collègues, des journalistes, des observateurs, des espoirs, puis ils disaient Penn State, c'est pas une université qui a produit des joueurs de premier plan. Tu sais, on n'a pas vraiment d'expérience en termes de développement des joueurs. Mais McKenna est allé là avec la promesse de on va te donner les clés du vestiaire, puis tu vas être le joueur qui va faire de nous un programme réputé au hockey. Mais pour l'instant, la preuve reste encore à faire de son côté. Puis ça attire beaucoup l'attention du côté de la Ligue canadienne, parce qu'on regarde ça, puis tu sais, la NCAA, il y a 3 mois, c'était le paradis. Là, on se rend compte qu'il y en a qui ont fait ce choix-là, qui ont un petit peu plus de difficultés, puis que c'est peut-être pas pour tout le monde cette avenue-là. Donc, c'est un passé bien pour la suite des choses.
Mais on arrive peut-être aussi... Ouais, vas-y, Nick.
J'allais dire, tu joues 2 matchs en 2 jours, tu joues pas pendant 1 semaine en plus. Et moi, ça me rappelle...
En ce moment, Nick, je veux juste... Gavin McKenna a joué son dernier match le 22 novembre. Le prochain match de Penn State, c'est le 3 janvier.
Oh!
Fin de session, examen, etc., etc.
Ouais.
C'est un contexte qui est, tu sais, McKenna produit pas au niveau, bénéficierait peut-être d'avoir une coupe de match avant le Mondial Junior, parce que lui va arriver à Minneapolis dans quelques semaines. Mm. Puis il va avoir 3-4 semaines d'inactivité derrière lui. Ça va être difficile pour lui de se mettre en marche rapidement.
Mais là, on arrive peut-être aussi dans le moment où les recruteurs l'ont tellement joué qu'ils vont trouver plus de bébites que d'autres choses. Puis tu regardes son rendement offensif, là c'est comme si on dressait un portrait que c'est catastrophique pour Gavin McKenna, mais c'est 18 points en 16 matchs, il est quand même un rythme d'1 point et plus par rencontre à 17 ans dans la NCAA. Guillaume, tantôt, t'as parlé que c'est moins que McLean Celebrini, c'est vrai, mais McLean Celebrini jouait avec Lane Hudson aussi du côté de Boston University. Boston University était une des meilleures équipes au pays. Je crois pas que c'est le cas pour Penn State. Ça va lui donner une autre forme d'apprentissage aussi de jouer contre des joueurs plus vieux. S'il retournait du côté de Medicine Hat après une saison où il a tout cassé, qu'est-ce qui lui restait à acquérir? Je peux comprendre le pari. C'est peut-être le choix de l'université qui va faire en sorte qu'il pourrait regretter.
Le pari
mais
est bon.
C'est pas catastrophique c'est non
ça.
Plus. Là.
Le pari est bon. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. C'est un gros step avec l'NCAA. Moi, ça me rappelle un peu James Higgins l'année dernière. À Boston College, Higgins est arrivé, il devait prendre la place de Celebrini, était avec des super bons joueurs dans un super bon programme. Puis ça a plus ou moins levé. Puis Higgins, qui était vu comme peut-être le premier choix total, a été repêché 7e par les Bruins de Boston. Encore cette année, Higgins, là, je ne l'ai pas vu jouer, là, je ne vais pas prétendre, mais 13 points en 13 matchs, c'est moins... que McKenna, puis c'est le même rythme que l'année dernière. Donc, et c'est là que tu vois, puis il disait, Higgins, l'année dernière, il dit, faut que je m'habitue, c'est pas du tout, tu sais, avec le programme national, là, jouait à peu près 80 matchs par année, puis là, tu tombes dans l'NCAA à jouer pas beaucoup de matchs. Peut-être qu'il y en a qui vont se rendre compte qu'à 18 ans, à ton année de repêchage, tu as besoin d'un certain volume, plus que tu en as besoin à 20 ans, ou... On verra bien aussi, tu sais, oui, il ne joue pas beaucoup de matchs, McKenna, en novembre, en décembre, tout ça, comme tu disais, mais en même temps, tu es au gym, tu t'entraînes. Peut-être qu'à long terme, il va pouvoir faire le saut plus efficacement dans la Ligue nationale de hockey versus un jeune qui aurait joué 80 matchs juniors avec les séries et tout ça.
Oui, c'est certain, mais tu sais, au-delà des points, c'est certain que c'est pas catastrophique, mais ce que ça fait, c'est que l'an dernier, qui aurait critiqué un gars qui amasse 129 points en 56 matchs?
Ouais.
Personne n'aurait osé dire. Mais là, comme les points, la production est moins éblouissante, on commence à porter attention à tout le reste. Et tu sais, au-delà des points, il y a certains recruteurs qui soulèvent des questions par rapport à son engagement, son body language dans certaines situations. Fait que ça, c'est des détails, mais c'est des détails qui peuvent être importants pour certains recruteurs qui regardent ça puis qui se disent, est-ce que c'est la pièce maîtresse avec laquelle on peut bâtir notre équipe? Peut-être qu'on parle pour rien en ce moment parce que, comme tu sais, un joueur, on peut se reparler, puis il va avoir eu sa grosse saison, puis il va avoir explosé en deuxième moitié, comme tout le monde prédit. Tu sais, Willy Desjardins disait ça, il va finir par... Le talent va prendre le dessus, puis il va retrouver son rythme. Mais en ce moment, il y a quand même des questions. Puis c'est drôle, tu sais, avec le timing du match des espoirs de la Ligue canadienne, on dirait que ça met l'accent sur McKenna et ses ennuis, je me sens, entre guillemets, de début de saison. Fait que pour lui, ça va être très, très important d'avoir un gros, gros, gros championnat mondial junior. Je pense que pour lui, ça va être, tu sais, si on s'approche d'une production de 2 points par match au mondial junior, va peut-être faire taire les doutes. Si on est un petit peu plus discret, ben les doutes vont continuer, puis les questions vont continuer de se poser pendant la deuxième moitié de saison.
Encore là, souviens-toi ce qu'on disait sur Macklin Celebrini parce qu'il n'était pas aussi productif que Connor Bédard au championnat junior et tout ça.
Non, c'est ça.
On avait
une discussion hier avec les collègues. Tu sais, la barre ne peut pas être Connor Bédard
c'est ça,
mondial
c'est pas,
junior
c'est pas
parce que Connor Bédard a fait ce qu'aucun joueur canadien est parvenu à faire à ce tournoi-là en termes de production. Fait qu'il faut quand même descendre un peu les attentes, mais je pense que c'est pas impossible de penser à une production de 11, 12, 13 points en 7 matchs si le Canada réussit à passer le quart de finale. Là. Ça, c'est une autre chose. Ça va être important pour la formation canadienne de mettre fin à cette disette-là, mais si
ça,
on se rend en finale...
Faut pas que ça devienne la base, ce quart
non,
de
c'est
finale-là.
Il faudrait au moins aller chercher 2 matchs de plus là, pour permettre à tout le monde de produire un petit peu plus.
Si c'est pas McKenna, toi, qui fait parler de lui présentement dans les espoirs pour ceux qui veulent commencer à se préparer pour le repêchage?
Ben c'est quand même drôle parce que le deuxième, tu sais, en ce moment, le consensus numéro 2, c'est peut-être un Keaton Veroff qui est un défenseur qui aurait pu jouer dans la Ligue canadienne, en fait, jouer dans la Ligue canadienne l'an dernier et maintenant rendu à North Dakota dans la NCAA. Fait que lui non plus, pas ici. Ça a arrêté les deux têtes d'affiche. Sinon, on parle d'un allié aussi, l'attaquant Ivar Stenberg qui connaît une très bonne saison, qui commence à s'inviter dans la conversation. Tu sais, c'est McKenna, un allié, Stenberg, un allié. Ça pourrait lancer quelques débats intéressants là, rendus proche du mois de juin. Mais sinon, après ça, tu as comme un paquet de joueurs de la Ligue canadienne qui sont ici, qui vont jouer ce soir et demain. Tu regardes là, les observations, les différents classements, puis il n'y a aucun consensus. C'est comme un paquet de 5-6 joueurs qui pourraient monter dans le top 5 et tout ça. Ça pourrait être assez intéressant. Tu sais, j'ai hâte de voir l'impact que les deux matchs de cette semaine vont avoir sur la suite des choses parce que, comme je le disais plus tôt, Matthew Schaefer l'an dernier, c'est à partir de ces matchs-là qu'on a commencé à parler de lui et qu'on a commencé à le prendre au sérieux. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît 2 grands matchs ici, peut gagner des points puis peut-être se lancer dans la course au premier rang. S'il y a une course, peut peut-être s'inviter dans les conversations pour le top 2, top 3 au prochain repêchage.
Combien de temps avant que la NCAA permette à ses joueurs d'année de repêchage d'aller jouer, de faire ce match-là d'après toi? Pense que ça va arriver ou ça se passe-tu?
Je ne sais pas. Il reste une autre année, plus une année d'option à cet événement-là. Mais je pense que du côté américain, on n'est pas très, très fan du concept parce que au niveau des joueurs qui ont la permission de jouer ici, ben, tu sais, il y a des joueurs qui sont des late. Xavier Villeneuve est un bon exemple, le défenseur québécois. Dans l'équipe des moins de 18 ans du programme américain, ben ces joueurs-là sont déjà à l'autre niveau. Ils ne jouent pas avec les Américains. Donc, on a une formation plus âgée, plus de, tu sais, je veux dire, tu as le choix entre trois ligues. C'est certain que la NTDP, c'est les États-Unis au complet, là, mais là, avec le changement de règlement, ça change un peu la dynamique. Fait que à suivre, on va faire la dernière année l'an prochain au Québec, puis après ça, ça va être de voir si les États-Unis décident de d'exercer l'année d'option puis de faire une quatrième édition. Mais de ce qu'on entend, c'est un concept qui ne plaît pas vraiment aux dirigeants de l'autre côté de la frontière.
Qui plaît pas mal moins qu'au début, là.
Ben c'est ça, on se rend compte peut-être que ça fait une moins belle jambe, disons, au programme américain quand on se présente au Canada puis qu'on se fait varloper. Quoique l'année passée, le deuxième match avait fini 3-2, là, mais disons que la différence de calibre est assez notable.
Petit mot sur, t'en as parlé un peu, mais des deux Québécois là, qui vont être là pour le tournoi. Pas le tournoi, mais les deux matchs.
Ouais, Xavier Villeneuve qui est là, fidèle au poste, et Maddox Dagenais, Xavier Villeneuve de l'Armada, Maddox Dagenais des Remparts de Québec. On a aussi Edgar Shilov, l'attaquant des Tigres de Victoriaville, puis Charlie Morrison, un néo-brunswickois qui évolue avec les Remparts de Québec. Donc, on a une petite représentation de la LHMQ, mais c'est certain que tous les yeux vont être tournés vers Xavier Villeneuve parce que lui... T'sais, c'est un petit défenseur. On le compare avantageusement à des Lane Hudson, à des Quinn Hughes dans son coup de patin, dans sa façon de voir le jeu. Connaît une bonne saison avec l'Armada, donc arrive ici avec quand même des choses à prouver. T'sais, l'année dernière, on regarde le repêchage. Aucun défenseur en bas de 6 pieds qui ont été repêchés. Mm-hmm. Xavier Villeneuve aime répéter qu'il est rendu à 5 pieds 11 quand même. Donc, on s'approche dangereusement de la barre des 6 pieds. Mais pour lui, c'est quand même un match où il y a beaucoup à l'enjeu parce que s'il domine, ben, il va peut-être commencer à faire taire les doutes sur sa taille et son petit gabarit, en fait.
Puis, tu me disais, peu de chance qu'on voit à l'œuvre un joueur ce soir qui va être avec l'équipe Canada durant le temps des fêtes.
Non, il y a très, très, très peu de chances d'avoir... Non, c'est ça, mais tu sais, l'année passée, on avait eu un Porter Martin qui avait été ici, Matthew Schaefer, mais on parle quand même de choix top 5 au repêchage qui étaient déjà assez avancés dans leur développement, qui dominaient à ce niveau-là. Cette année, il y a peut-être moins de joueurs de ce calibre-là. Il y a peut-être un gars comme Ethan Belchez qui attire l'attention, compare son jeu à Matthew Tkachuk. Donc, okay. C'est un gars qui est fatigant. Puis on y a parlé hier, là, je suis pas mal sûr qu'il est aussi grand que moi, donc un 6 pieds 4, 200 quelques livres. Là. C'est un gars qui est assez imposant, qui pourrait quand même... être un potentiel candidat, mais j'ai hâte de voir parce que là, d'ici peut-être deux semaines, on va procéder aux invitations pour le camp d'entraînement parce que c'est pas un camp de sélection cette année avec l'équipe Canada Junior. Donc, est-ce qu'il va en avoir fait assez dans sa saison pour mériter sa place sur l'équipe? Ben, je pense que c'est un gars qu'on aurait peut-être invité si on avait invité 37-38 joueurs comme par les années passées, puis ou 33 peut-être, qu'on aurait réduit le nombre. Mais là, on y va vraiment avec l'équipe. On invite les gars qui vont faire partie de l'équipe. Okay. Donc, ça joue peut-être contre ces gars-là qui auraient eu à prouver leur valeur au camp d'entraînement, au camp de sélection.
Parce qu'au final, on a décidé de changer ça parce que de toute façon, quand on arrive, il y a 22 des 23 joueurs qui sont déjà choisis. Puis c'est un peu ça. Pourquoi on a changé...
Ben, changer parce que ça fait deux années qu'on perd en quart de finale. Donc, ouais. Je pense qu'on veut, on veut donner l'impression qu'on change la recette un peu du côté d'équipe Canada. Mais au final, comme tu dis, je pense pas que ça va changer grand-chose parce que, tu sais, l'an dernier, Beckett Seneca était le meilleur joueur sur la patinoire pendant les deux matchs contre U Sports. A été retranché de la formation parce que faisait pas partie des plans initiaux. À quel point ces deux matchs-là avaient un impact, je pense que poser la question, c'est y répondre. Puis, bon, cette année, on invite les joueurs, puis on va espérer bâtir un esprit d'équipe, bâtir un système de jeu et tout ça qui va être plus complet, comme on va avoir deux semaines et demie de préparation là, avant le début du tournoi. On brasse la soupe, on essaie une nouvelle formule, parce que là... Ça se défend comme idée. J'ai hâte de voir les résultats, surtout... avec Dale Hunter derrière le banc, là, ça risque de se tenir les oreilles droites du côté des joueurs de Team Canada.
Les gars, j'en ai parlé plus tôt dans l'émission. La Thanksgiving américaine, Action de grâce, qui est ce jeudi. On va avoir beaucoup de football. Mais c'est un peu un moment dans l'année où on voit les tendances s'installer, les équipes qui vont être en série. Là, cette année, c'est peut-être un peu différent. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand vous regardez le classement. Extrêmement serré dans l'Est. Il y a peut-être moins d'équipes qui sont déjà larguées. À vrai dire, il y en a pas mal moins parce que jusqu'aux Rangers de New York, là, on est à seulement 2 points d'une place en séries éliminatoires présentement. Je vous pose quelques questions. On va discuter un peu, mais on va faire ça quand même rapidement. Là, dans le vrai ou faux, oui ou non, là, peu importe. Là. Je pose quelques questions. Je veux un peu sentir votre pouls sur diverses tendances en ce moment. Tu en parlais, GF, tu étais du côté des Rangers. Quand tu regardes le début de saison de cette équipe-là, la manière qu'on joue présentement, est-ce que vous pensez que les Rangers vont réussir à se mettre en marche d'ici la fin de la saison ou là, déjà, on est dans le trouble?
Réponse simple et rapide, non.
Hier, il m'a appelé après la première période, je pense. Il m'a dit, c'est terminé cette équipe-là.
Ah ouais,
c'est épouvantable. Comment
mais hier, ils ont trouvé une façon de gagner 3-2, mais c'était une deuxième victoire seulement au Madison Square Garden en 10 matchs. C'est une équipe qui ne marque pas de but à la maison. Un noyau quand même vieillissant. Vous avez probablement vu les images de JT Miller aussi, où il y a un jeu où il arrête complètement de jouer, le capitaine. Hier, le meilleur joueur, c'était Vladislav Gavrikov. Puis c'est un défenseur qui, a priori, est défensif. Là. Non, je crois que les Rangers, s'ils s'en vont à un endroit, c'est plus vers le mur que vers les séries.
T'es-tu du même avis, Guillaume, ou juste pour être sûr?
Oh, ouais, j'abandonne sur les Rangers officiellement. Là, je veux pas recommencer comme l'an dernier puis me faire désaccroire que la vapeur va être renversée à chaque semaine. J'abandonne.
Tu dis abandonne. Avez-vous abandonné sur la possibilité qu'Alexis Lafrenière devienne un joueur d'impact dans la Ligue nationale de hockey?
Ça dépend, c'est quoi la définition d'impact?
Un joueur d'un point par match ou plus ou moins. Là.
Un point par match, c'est beaucoup. J'ose pas dire abandonner, mais il n'a pas encore démontré qu'il peut être un joueur d'impact sur une base match après match. Hier, c'était une bonne rencontre du côté du MSG, là, première étoile, un but, mais il n'y avait pas eu 6 mises en échec, mais les 5 matchs auparavant, aucun point. C'est peut-être une année où il n'y avait justement pas un talent extraordinaire de cette année de repêchage-là. Tim Stutzle, Jake Sanderson, c'est Alexis Lafrenière qui a été le premier, Quinton Byfield. Est-ce qu'il y en a un dans tout ce lot-là qui va devenir un joueur archi-dominant? On attendra.
Disons que les sénateurs sont en voiture.
Oui, les Sens ont peut-être
dans
gagné.
Dans la gang nommé, là.
Les Sens ont gagné la bonne pige, pas, là. Exact.
Ouais. On n'a pas gagné la loterie, mais peut-être qu'on l'a gagné finalement cette année-là avec Stutzel et Sanderson.
J'abandonne pas là-dessus.
Mais est-ce qu'un changement de paysage, ça y ferait du bien?
Ben, c'est vers là que je m'en allais parce que dans les premières années, l'équipe était quand même dominante. Avait un rôle de soutien, un rôle de profondeur. Dernièrement, on lui en donne plus peut-être offensivement, mais visiblement, de l'extérieur, l'ambiance dans le vestiaire, les influences qu'il y a du côté des Rangers, je pense qu'on peut se poser des questions. C'est un peu douteux de ce côté-là. Donc, est-ce qu'il s'épanouirait plus dans un autre marché? Je serais curieux de voir. Je ne sais pas si ça va arriver, mais je ne suis pas prêt à abandonner parce que Martin Saint-Louis le disait cette semaine, là, la dernière carte pour un jeune, c'est la constance. Visiblement, Lafrenière, avec ce que Jeff disait, n'a pas encore trouvé la constance. Est-ce qu'il est dans un bon environnement pour y parvenir à New York? Ça, c'est une autre question, mais j'ai encore confiance. C'est un gars qui dominait tellement au niveau junior que tu te dis c'est quelque part en lui, mais peut-être qu'on enfouit ça un petit peu trop profondément du côté de New York.
Ouais. Vrai ou faux, Maple Leafs de Toronto sont présentement derniers avec 21 points, 22 matchs dans l'Est. Vrai ou faux, les Maple Leafs vont rater les séries éliminatoires?
Vrai. Guillaume, je t'écoute.
D'accord aussi. pour toutes les raisons qu'on a nommées en début de podcast.
En raison du retard qu'ils ont présentement ou en raison de ce qui s'en vient?
Plus avec l'attitude qu'ils démontrent que le retard au classement, le retard reste, tu peux le combler. C'est loin d'être immense. C'est tellement serré dans l'Est. Mais je vais reprendre les mots de Maxime Talbot qui signe une chronique avec nous. Il dit peut-être que Auston Matthews et William Nylander cherchent plus à être beaux, bons et gentils que d'être de véritables joueurs de hockey. Puis de tous les gros chevaux chez les Maple Leafs, ils ont peut-être perdu le cheval le plus important à Mitch Marner.
Ils ont perdu.
Donc, je crois qu'ils ne, ils vont manquer les séries.
Je vais faire l'analogie du traîneau du Père Noël, mais il manque le traîneau rouge en avant. qui te donne le chemin, là. C'était peut-être ça, Mitch Marner.
C'est une équipe qui est extrêmement lente, je trouve, sur la glace. Un Matthews, Nylander a de la vitesse, là, mais Auston Matthews, c'est pas un marchand de vitesse. Matthew Nyes non plus. John Tavares commence à être plus vieux. C'est une équipe qui joue pas un style très, très dynamique, très, très rapide. Puis je pense que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, ben, ça peut les rattraper assez vite. C'est ce qu'on est en train de voir, puis je vois mal comment ça va se revirer de bord.
Puis je suis pas certain qu'ils sont capables d'adopter le style de jeu d'une équipe plus lente. Tu peux quand même avoir du succès, c'est-à-dire un style de jeu hyper défensif.
C'est
illogique avec les gros canons qu'on a en avant. Donc, on a votre réponse. Les Jets ont perdu Connor Hellebuyck. On dit 4 à 6 semaines, opération au genou. Présentement, les Jets, ils sont à 3 points d'une place en séries éliminatoires, mais quand même, on a 2 matchs en main. Vrai ou faux, la perte de Connor Hellebuyck va faire mal aux Jets et on va rater les séries.
Je dirais faux. Ça va leur faire mal, mais je vois pas cette équipe-là rater les séries. On a trop d'éléments intéressants, trop de profondeur pour ne pas être capable de rattraper peut-être le temps qu'on va perdre dans l'absence d'Hellebuyck. Non, je pense pas que c'est une équipe qui va être à l'extérieur du portrait des séries.
Je suis plate, mais j'ai la même réponse que Guillaume. Faux. Je pense que les Kyle Connor, Joshua Morrissey, Mark Scheifele, il y a du talent du côté de Winnipeg. Ils devraient techniquement survivre à la perte. On parle, c'est un mois. Ça n'a pas représenté. Il y a tellement de matchs.
C'était entre 12 et 14 matchs. Là. Fait que, du côté du Canadien,
si tu vas pour
6
semaines,
ça devrait être similaire. Ouais,
17, peut-être 18. C'est un test pour les
gros,
Jets.
Ouais, c'est un gros...
Il y a Wild qui commence à prendre son élan aussi dans l'association de l'Ouest.
Si on n'était pas dans la section centrale, peut-être que la discussion serait moins... T'sais, on hésiterait un peu moins, mais vu que c'est la centrale, il faut que tu sortes le Mammouth, il faut que tu sortes le Wild, ça va être un peu plus difficile. Vrai ou faux, à moins d'une blessure, Nathan MacKinnon est déjà peut commencer à graver son nom sur le Trophy Hart Ross.
Vrai.
Ouais, moi aussi. Vrai. Tu sais, je pense que ceux qui le pourchassent, bon, t'as peut-être un McDavid qui est toujours dangereux, là, mais on a parlé de la jeunesse, Célébrini Bédard, est-ce que ça va se poursuivre à ce rythme-là tout au long de la saison? J'ai mes doutes par rapport à ça. Puis l'Avalanche roule à fond de train en ce moment, menée par un Nathan MacKinnon en pleine forme. Donc je le vois pas ralentir, puis peut-être va revenir galvanisé de Milan. Peut-être avec l'or au cou. Donc, non, je vois pas de ralentissement dans son cas.
Et Nathan MacKinnon a quand même la chance d'avoir Cale Makar qui est à la pointe à chaque fois en supériorité numérique. Donc, go, Nathan, go.
C'est quand même drôle parce que tu regardes les 4 premiers marqueurs de la Ligue là, ce matin. Tu as 2 Connor puis tu as 2 joueurs que le nom de famille commence par Mac. Ça me fait rire. Je trouve juste ça drôle. MacKinnon, Connor, McDavid. Vas-y. Ouais, vas-y.
Une autre stat absurde, dans le match de samedi, tous les marqueurs des Canadiens ont un nom de famille qui se terminait par Son. Lane Hudson, Josh Anderson, et c'était qui l'autre? Je sais pas. Deux buts.
Ben, il y a Davidson, mais je pense pas qu'il a marqué.
Attends, je peux te sortir parce que ça va me travailler pour le reste de la journée. Là. Samedi. Non, mais c'est pour les gens à la maison là, qu'on fait
ouais,
ça.
Oui, oui, on fait ça.
On fait ça avec Dobson, Hudson, Anderson.
Exact. Et Dobson avec ouais. deux buts. C'est lui qui manquait. Manquait Matheson
aussi.
Davidson. Ouais,
Matheson, Davidson.
Ça aurait complété vraiment.
Ah, mais à vrai dire, même chez les Maple Leafs, t'as Oliver Ekman-Larsson qui a marqué. Donc, William Nylander qui est le trouble dans le match de samedi. Ben,
chez les Suédois, là, ça finit quasiment toujours par Son. Là. Le fils de Peter, le fils de Lars rajoute. C'est ça. Les Russes, c'est Ov.
Ouais. Mais Suédois, t'as réussi à, on ça. A réussi à pogner le Suédois qui finit pas en Sun. Fallait le faire quand même, là,
ouais.
dans le cas de Nylander. Et en terminant, c'est pas un vrai ou faux, c'est plus une analyse, mais quand vous regardez les équipes qui sont en séries éliminatoires actuellement, laquelle, selon vous, est la plus susceptible de planter du nez puis rater les séries?
Guillaume commence.
Voulez-vous y aller avec le pourcentage
ben
de points?
Ben non, mais regardez-moi, moi, j'ai, c'est bon, j'ai ma réponse.
Vas-y.
Les Red Wings.
Oui?
Oui. Je n'aime pas les Red Wings devant le filet. Donc, Détroit.
C'est quand même dommage qu'on est allé chercher John Gibson, puis à date, c'est Cam Talbot, ton meilleur gardien, à nouveau. Là.
Ouais.
On espérait beaucoup de John Gibson, puis à date, ça ne colle pas là, autant qu'on voudrait. C'est pas mauvais non plus. Là, je veux dire, cette équipe-là est toujours bien en séries éliminatoires, mais c'est Cam Talbot qui. On peut dire merci à Cam Talbot. Guillaume?
Ben, moi, je trouve que le Kraken de Seattle a un début de saison anormalement bon. C'est pas une équipe que je voyais en série en début de saison. Puis, je pense pas qu'ils ont les éléments là, pour poursuivre sur leur lancée dans cette saison-là. Donc, moi, j'irai avec le Kraken. Je pense
tu
pas qu'on va aller faire
le Kraken va craquer.
Ah, c'était ouais. évident qu'il s'en allait.
Le Kraken va se retrouver dans les bas-fonds.
Oh,
c'est bon.
Il va faire.
Peut-être pas, mais j'irai pas jusque dans les bas-fonds. Ils vont juste seront pas décidés.
Mais Guillaume, si jamais tu avais la chance de visiter Seattle, est-ce que tu prendrais une photo où tu regardes l'horizon? C'est tout.
Ah oui, devant peut-être la murale avec des gommes collées au mur. Oui,
où il y a le marché aussi, la fameuse.
Mais j'aimerais ça,
à Seattle.
J'aimerais ça aller à Seattle. Je suis jamais allé.
C'est beau, c'est
une belle ville.
Je dis tout le temps l'affaire la plus bizarre.
Je doute qu'on soit là au printemps.
Oui, je dis tout le temps l'affaire la plus bizarre avec Seattle quand moi j'y étais. Si vous avez la chance, en dessous de la Space Needle, là, il y a un parc. Là. Enlevez vos souliers et marchez nu-pied dans le parc. Il y a de quoi dans ce gazon-là? Là? Je l'ai fait par accident.
C'est un peu
je
ésotérique
sais,
ton affaire.
Chaque fois que j'en parle, j'ai l'air bizarre. Mais je pense que c'est
moi, dans les grandes villes, tu gardais
tes pantalons.
Non, mais oui, j'étais juste nu-pied. Là. Mais il y a de quoi. J'imagine c'est parce qu'il mouille tout le temps à Seattle, whatever, mais j'ai jamais marché sur du gazon moelleux comme ça. C'est ma recommandation par rapport à Seattle. C'est beau, le pier, puis tout ça, puis c'est une belle ville. Mais moi, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Ça, puis le Safeco Field. Le stade qu'on aurait dû bâtir à Montréal pour les expos,
ils
ça aurait été une copie du Safeco Field.
Ouais, juste,
c'est plus le Safeco Field là, maintenant, c'est le T-Mobile Field. Là, mais c'est ma recommandation. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui l'a déjà fait ou qui va le faire, pas m'envoyer de photos par contre, mais si vous voulez m'écrire et dire t'as raison, Nicolas, je l'apprécierais savoir que je suis pas tout seul dans mon monde qui a vécu tout ça.
Là, j'en profite parce que Guillaume est en Alberta, là, mais tant qu'à être dans un grand quiz, là, est-ce que les Oilers participent aux séries?
Oui.
Est-ce que les Oilers vont trouver un gardien?
Non.
Mais vont quand même réussir à s'en tirer.
Vont vivre et mourir
mais
avec Stuart
si
Non, mais à un moment
font,
donné, Stuart Skinner va pogner feu à un moment donné. Ça va arriver. Ça y arrive à toutes les saisons. Il va pogner un 20 matchs, il va en gagner 17. Ils vont faire les séries éliminatoires, mais ils ne gagneront pas la Coupe cette année. Là. Aucune chance. Ils ne seront même pas dans la discussion, j'ai l'impression. Ça va dépendre des match-ups, là, mais qui on va affronter, en quelle ronde, mais c'est mon impression. Je ne sais pas, Guillaume, toi, t'étais-tu du même avis ou?
Je vois pas cette équipe-là se rendre en finale encore une fois. Là.
Non, mais
j'ai encore mes doutes, je sais pas. Non, ils vont faire les séries avec, avec McDavid, Draisaitl vont réussir à s'en tirer.
Vont se fâcher.
Parce que McDavid et Draisaitl, mais je vois pas d'autres raisons autres que celle-là.
La porte est après se fermer là, du côté d'Edmonton. Excusez, le chat est de retour dans la gorge. Hey les gars, merci. Il est revenu juste à temps pour finir l'émission. Merci les gars d'avoir été là aujourd'hui avec moi. On va vous suivre. Là. GF, tu nous ponds un texte avec Patrick Roy là, qui va être publié.
Schaefer, Patrick Roy dans les prochains jours. Mais il y avait déjà du Émile Heinemann, Mathieu Darche, Jonathan Drouin, Logan Mayou. Les Blues étaient de passage, Alexis Lafrenière, donc on a passé la gratte du côté de New York.
Ouais. Guillaume, toi, on va pouvoir suivre, tu vas parler, comme tu as dit, tu as déjà parlé avec bien des jeunes, fait que c'est allé d'ici à ce que le tricolore soit de retour à Montréal la semaine prochaine. Alors, gros merci d'avoir été là, chers auditeurs, comme je dis toujours, suivez-nous, vous ne voulez pas rater le prochain balado, on va retomber à mercredi, la semaine prochaine, nos mercredis habituels, on a fait ça aujourd'hui mardi, là, en raison du fait que les gars étaient à Calgary, tout ça, étaient sur la route. Donc, c'est ça. Donc, prochain balado, mercredi prochain. Ratez pas ça. Abonnez-vous pour être certain de ne rien rater. Merci encore d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.